pas Laurent de Wilde et pas de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Bonjour à tous, c'est l'heure de Jazz Interview sur Art District Radio. Bonjour Serge Mariani.
Bonjour Julie.
Alors votre invité aujourd'hui est un pianiste de jazz.
Absolument, il s'appelle Dexter Goldberg. Bonjour Dexter Goldberg,
bonjour.
C'est bien vous ?
Oui, c'est moi.
Et merci donc d'avoir accepté notre invitation sur Art District pour un nouveau set de Jazz Interview. Nous allons mieux faire connaissance, parler de votre album intitulé, je le rappelle, Tell Me Something New. Un titre évidemment assez interpellant, nous y reviendrons. Et évoquer le concert aussi prévu ce 7 décembre au Sunside, à Paris, bien sûr. Dans Jazz Interview, ça va Dexter ?
Oui.
Bon, très bien. Dans Jazz Interview, il y a certes jazz, mais aussi donc interview. Et avant d'écouter le premier titre que vous avez choisi, l'un de ceux de votre album, j'aimerais dire qu'à mon humble avis, un musicien, même un pianiste de jazz, qui dédie en concert une de ses compositions à sa fiancée, le mot déjà est délicieux, oui, j'ai eu des informations, ne peut pas être totalement mauvais. Pas mauvais en tant que pianiste, mauvais en tant qu'être humain. Ce thème, c'est Camille. Bon, là, ça y est. Alors, cela m'amène très subtilement à ma première question. Que diriez-vous de la place de l'émotion dans la composition ?
Ça, c'est une question assez intéressante.
On m'a
déjà parlé de ça, parce que je joue beaucoup avec un trompettiste qui s'appelle Romain Mansanti, qui lui dit que il faut avoir une vie un petit peu dure ou avoir vécu beaucoup de choses pour pouvoir exprimer des sentiments en musique. Et je connais un super contrebassiste un peu plus âgé qui s'appelle Jean Bardi, qui lui croit pas à ça. Donc moi j'ai l'impression que j'ai pas trop la réponse à ça. Et que je dirais que c'est propre à chacun. En tout cas moi quand je joue et que je joue une balade par exemple, j'ai quand même des images qui me viennent de ma copie.
En l'occurrence c'est une balade Camille.
Ouais,
et vous la jouez, si j'ai bien compris, vous l'avez joué en tout cas déjà en rappel par exemple, ou vous l'intégrez, comment ça se passe ?
Ça dépend
du feeling.
C'est souvent pour finir un set.
D'accord.
Et c'est vrai que les gens adorent ce morceau.
En plus.
Alors, je ne sais pas si c'est aussi parce que justement c'est dédié à ma fiancée, mais ouais.
Je me suis beaucoup inspiré d'amis aussi pour cette interview, non pas parce que je ne savais pas quoi vous poser comme question, mais parce que ça m'a intéressé. Donc une amie qui s'avère être aussi une pianiste de jazz m'a suggéré de vous demander quelle importance vous accordez à l'inspiration dans et par rapport au travail de composition lui-même. Est-ce que c'est l'inspiration d'abord, le travail avant tout, comment est-ce que ça se
combine ? Moi, c'est
combine.
Vraiment l'inspiration pour moi. C'est notamment quand je compose, je me mets au piano et je mets les doigts un peu au hasard sur le piano. Et ça me donne des idées et je pars de là. Donc c'est vraiment très instinctif et c'est pas, ça vient pas tant que ça de travail. De vraiment travail dur, en sens habituel du terme.
D'accord, c'est-à-dire que vous vous levez ou vous marchez, tout d'un coup une phrase musicale qui a un moment, quelque chose...
Ouais, j'enregistre beaucoup de petites idées sur le téléphone, etc.
D'accord, et ensuite vous mettez au piano et là, le travail commence.
Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
C'est donc le titre éponyme de l'album « Tell Me Something New » que vous avez souhaité nous faire entendre en premier. Est-ce que c'est une revendication, un défi lancé au jazz d'aujourd'hui, quelque chose de neuf, de nouveau ? Qu'est-ce que le jazz, et le piano jazz en particulier, aurait à dire, selon vous, à nous raconter de nouveau ?
En fait, c'était plus... Justement, je savais qu'en choisissant ce titre-là, j'aurais certaines demandes des journalistes.
C'est du marketing, en fait.
Et, pas complètement. Et en fait, c'est justement plus... De la part, c'est une sorte de phrase, « Tell me something new », c'est pas moi qui l'a dit finalement. C'est peut-être plus l'industrie de la musique ou du jazz, ou c'est pas que « dites-moi quelque chose de neuf ». Et moi, ce que j'ai tendance à répondre du coup à ça, c'est que j'estime pas que c'est incroyablement moderne, etc. Par exemple, ma musique, ou que ça revendique quelque chose de complètement neuf. Mais que c'est un truc qui a jamais été fait. Il y a beau avoir des milliers de trios, je pense que le mien est neuf, quand même. Et même si c'est peut-être pas la musique la plus moderne et la plus avant-gardiste qu'il puisse y avoir, elle est neuve.
Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ça, le côté neuf, il est là pour vous. Mais sinon, oui. quand vous oui, écoutez oui. ou vous vous intéressez forcément à ce qui se passe autour de vous, ce que vous entendez,
oui.
Est-ce que vous pensez que le jazz d'aujourd'hui a vraiment quelque chose de différent à raconter, ou c'est ou là dans la manière de raconter, donc de faire la musique, que la nouveauté se trouve?
Ouais, dans la manière de faire. Ouais, c'est vrai que dans la manière de jouer, on peut jouer les standards, par exemple. Les standards se jouent encore maintenant.
Bien sûr.
Et c'est comme ça qu'on reconnaît. Si on écoute, par exemple, All the Things You Are en 1940, et qu'on l'écoute maintenant, ça n'a plus rien à voir.
Bien entendu.
Par exemple, y a Gerald Clayton, qui est un super pianiste de jazz de ma génération, américain, qui a enregistré son gros album en trio qui s'appelle Bond. Je crois que c'était en live à Paris, d'ailleurs. Et il joue dessus All the Things You Are, et du coup, c'est dans des métriques un peu bizarres. Il commence en 7-4, ensuite le B c'est en 6, et la dernière partie c'est en 5.
D'accord, c'était voilà. le moment pour spécialiste là.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Bon, Dexter, nous écoutons à présent ensemble un extrait de votre Tell Me Something New. C'était donc un extrait de Tell Me Something New de Dexter Goldberg que nous recevons aujourd'hui. Dexter, si vous le voulez bien, je crois que vous le voulez bien en plus, nous allons, et vous allez surtout, nous parler d'Ahmad Jamal. Nous écouterons en effet dans quelques minutes un extrait d'un titre de lui que vous avez choisi. Vous nous dites lequel quand même ?
Wave.
Wave, sur The Awakening, c'est
ouais,
ça ?
L'album The Awakening en 1968, je crois.
Je sais, ouais, d'accord, je sais peut-être. En vous écoutant jouer plus attentivement, en effet, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine parenté de style et d'inspiration qui existe, donc entre lui et vous. Est-ce que vous voulez bien nous en dire davantage à ce sujet ?
Ouais. En fait, c'est à la base, je suis batteur. et percussionniste. Mmh. Et on en parlera peut-être après, mais le premier vrai concert d'un grand pianiste que j'ai vu, c'était Ahmad Jamal. C'était à Jazz à Vannes, quand j'avais 15 ans, et en extérieur, avec notamment comme ingé son Vincent May, qui était le propriétaire du studio dans lequel j'enregistrais l'album. Sextant, hein. Et c'était Ahmad Jamal, en trio.
Et là, ça a été la révélation.
Ouais, vraiment la révélation pour moi, la magie du son. Et surtout là, dans ce cadre magnifique, ouais, ça a été la révélation. D'accord. Donc c'est pour ça.
Et la batterie, au revoir.
La batterie, au revoir, mais pas d'un coup. Donc ça a été révélation, mais je ne me suis pas dit, ça y est, je me mets au piano. C'est venu petit à petit, mais c'est souvent ce que je me dis, c'est que c'est suite à ce concert que petit à petit les choses se sont mises en place et que j'ai lâché la batterie pour le piano.
Bon, on va pas trop s'en plaindre non plus, hein. Mais vous revenez de temps en temps à la batterie quand même ou...
Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive.
Par exemple, votre batteur qui vous accompagne dans le trio, Kevin Lucchetti, voilà, il vous laisse toucher un peu.
Oui, mais pour
quand il regarde ailleurs, vous y allez.
Des fois, il se met au piano et moi, voilà. Je mets à la batterie.
D'accord.
On rigole. Mais...
Dexter, il se dit qu'Ahmad Jamal considérait que l'improvisation n'était pas le caractère spécifique du jazz. Il aurait dit que Mozart improvisait aussi, par exemple. Bon, moi j'ai un certain âge, mais j'ai malheureusement pas assisté à un concert de Mozart. Quel est votre point de vue sur l'improvisation et le jazz?
Moi je dirais quand même que c'est la plus grande part du jazz, sans vouloir contredire le grand maître.
C'était peut-être un. Comme ça, il a envoyé ça, comme ça, histoire de dire. Voilà, on devait l'interroger aussi.
Mais,
là-dessus.
Mais je sais que oui, c'est, en tout cas, c'est peut-être un truc des Afro-Américains qui revendiquent, qui viennent vraiment, qui sont les créateurs de cette musique et qui ont le droit de revendiquer le fait que c'est peut-être la musique classique américaine. C'est bien peut-être que dans ce sens-là qu'ils l'entendent. Mm-hmm. Et je sais qu'il y a Barry Harris aussi, qui est un pianiste, le pianiste de bebop qui a accompagné Charlie Parker, qui est encore vivant, qui donne des masterclass dans le monde entier, qui dit ça, que le jazz est la musique classique américaine. Et du coup, en ce sens-là, peut-être que l'improvisation n'est pas vue.
En fait, je pense que ce qu'ils veulent dire dans ces cas-là, c'est qu'il ne faut pas réduire, c'est peut-être un mot un peu fort, mais l'improvisation. Parce que c'est vrai que la plupart des gens ont l'impression qu'on joue du jazz comme ça, quoi. On se met au piano, et ça, puis hop, on va
au feeling.
Et puis c'est super, ou pas, mais bon, alors qu'il n'y a rien de pensé vraiment, etc. Et il y a. Alors, c'est vrai que. Votre trio, donc qui est vraiment dans la formule classique, hein, piano, batterie, contrebasse, il y a évidemment des grands classiques dans le genre. Est-ce que l'interplay est important pour vous? L'interplay, en général, on considère que c'est Bill Evans qui l'a mis en place.
Décomposé aussi.
Et oui, absolument. Rapidement, quelle est la façon dont vous travaillez, vous, le trio?
Un peu
en concert, bien sûr.
En concert, oui. En concert, c'est très instinctif, encore une fois. Et c'est vrai que je crois que le fait que je vienne des percussions et de la batterie fait que il y a vraiment un côté interplay beaucoup plus puissant que peut-être des pianistes qui ont le parcours habituel classique, qui commencent par le classique et qui sont des vrais pianistes en tant que tels. Moi, je suis avant tout un musicien, un batteur, rythmicien, on va dire. Et du coup, j'écoute énormément, notamment ce que fait la batterie, et je suis très en symbiose avec ça, et je réponds au tac au tac. Et d'ailleurs, même au début, c'était presque un problème, parce que j'ai à peu près l'oreille absolue, et du coup, je peux vraiment répondre à un peu tout ce que j'entends, et ça peut faire un peu perroquet. Donc j'ai appris avec le temps à moins répondre, et pouvoir justement être dans l'interplay, mais avoir du recul par rapport à ça, et pas juste... répondre au tac au tac à tout ce qui se passe.
Ok. Bien, Dexter, nous écoutons à présent donc l'extrait du titre d'Ahmad Jamal que vous avez choisi. Donc, il figure sur l'album The Awakening et c'est Wave, une version très personnelle du thème d'Antonio Carlos Jobim.
Thank you.
de retour dans le studio de Jazz Interview sur Art District avec notre invité Dexter Goldberg. Vous aurez remarqué peut-être que jusqu'à présent, Dexter, j'ai évité de faire référence à votre prénom.
Oui.
Et je n'en ferai pas. Voilà.
Ah si. Non. Ah. Pourquoi ?
Bon.
Vous n'aimez pas ?
Si, Dexter, oui. Il y avait la série aussi, j'aimais bien la série du...
Oui, on m'en parle. C'est vrai que c'est la première chose dont on
Mais
parle.
Mais là, c'est pas le même Dexter, je crois.
Non.
Alors allez-y, allez, vous avez 30 secondes.
30 secondes. Alors je m'appelle Dexter parce que il y a un super saxophoniste de jazz. Non, je vais prendre mon temps quand même.
Ouais, bien sûr.
Il y a un super, enfin un des plus grands saxophonistes de jazz qui s'appelle Dexter Gordon et mes parents adorent. Du coup, ils m'ont appelé comme ça. Mais il y a
parce qu'on, pardon, on rappelle que vos parents sont un peu dans la musique aussi. Hein,
oui.
Pour ceux qui ne le sauraient pas.
Mon père notamment est saxophoniste de jazz professionnel et il a une école de jazz à Paris qui s'appelle Arpège. Et il a écrit des méthodes d'improvisation de saxophone, etc. Mais c'est pas, enfin c'est la raison principale. Mais il y a une petite anecdote marrante à ce sujet-là, c'est que ma mère a été figurante dans le film de Bertrand Tavernier qui s'appelle Autour de minuit, film sur Dexter Gordon.
Bien sûr.
Et figurante, elle applaudissait juste dans le public. À un moment, on la voit applaudir quoi. Et moi, j'étais dans son ventre à l'époque.
Ah.
Et donc j'ai entendu Dexter Gordon. J'étais
super.
Indirectement. Enfin non, directement.
D'accord. Ah oui.
Et c'est assez marrant.
Très, très bien.
J'étais un petit peu prédestiné, c'est vrai qu'avec des parents musiciens
bien sûr.
Et avec un prénom comme ça, qui sonne vraiment jazz, il y a un côté prédestiné. Mais j'ai jamais été forcé, bien sûr.
Oui, bon, tout était là, quoi, déjà. On va dire. Dexter, comme nous allons terminer bientôt, hein, quand même, et oui, cette émission avec un second, dernier titre de votre composition, toujours sur l'album Tell Me Something New, j'aimerais vous poser une autre question qui m'a été soufflée encore par l'ami pianiste déjà évoqué. Cette amie pianiste est russe et elle s'appelle Yulia Perminova. Voilà, elle est à D'accord. Berlin actuellement, elle fait ses études. Sérieusement, c'est une
Merci.
Plutôt bonne pianiste. J'espère que vous allez vous rencontrer. Est-ce qu'il vous arrive donc de penser que quelqu'un interprétera peut-être un jour, on le souhaite en tout cas pour vous, votre musique ? Et que ressentez-vous à cette idée ?
Qu'est-ce que je ressens ? Là, il me faut un petit peu de temps.
Allez-y.
Genre en mode non-live. Qu'est-ce que je ressens ? C'est pas facile à répondre ça.
Quelqu'un... Voilà, vous a découvert en live ou sur l'album et dit « Ah, je veux interpréter ce titre.
» Je ressentirais une énorme fierté. Une énorme fierté. Et ouais, j'aimerais vraiment que ça arrive.
Voilà. Et dans ce cas-là, on ne se pose pas la question de savoir « Mais qu'est-ce que cette personne va faire dans ma musique, quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ?»
Je pense qu'on peut la jouer de plein de façons différentes, notamment ce premier album qui est composé d'une manière assez simple, d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses rythmiques, mais le truc qui est intéressant, c'est que justement, il y a moyen de jouer ça de plein de façons différentes. En dehors du rythme, qui devrait rester clair. Au niveau harmonique et mélodique, il y a vraiment moyen de se balader.
Voilà. Mais donc, comme on en parlait un petit peu avant, comme la plupart des musiciens de jazz, bien sûr, vous reprenez certains standards, en concert
oui.
en tout cas,
oui.
Notamment I Remember April et Cedar's Blues. Par exemple, hein.
Pourquoi
ces titres en particulier ? C'est toujours sur le problème du rythmique. Enfin, il y a quelque chose. Vous cherchez à
I Remember April. C'était, j'étais au CNSM et il fallait. On avait toute une année sur Bartok. Du coup, j'avais écouté beaucoup Bartok et j'avais fait un arrangement là-dessus sur I Remember April. Cedar's Blues, c'est parce que j'adore Cedar Walton. Il m'a fait découvrir mon père et j'aime beaucoup et j'ai fait un arrangement. Et il y a Take Five aussi que j'aime bien. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est que j'aime bien que la musique soit accessible aussi, que ce soit pas juste musique très intellectuelle, de la musique du jazz pour jazzman par exemple. J'aime bien. Je sais qu'à chaque fois les gens adorent quand on joue Take Five avec le petit arrangement qu'on a, les gens adorent. Et c'est un des trucs que je préfère, c'est ça, c'est ressentir que les gens aiment ça et qu'on partage quelque chose.
Alors, est-ce qu'il existe au moins, ça c'est une question soufflée par une autre amie mais qui veut rester anonyme, est-ce qu'il existe un standard dont jalousement vous aimeriez être le compositeur? J'ai bien dit jalousement.
Peut-être des compositions de Coltrane, John Coltrane. Peut-être pas Giant Steps, mais... Ouais, il y en a.
Ouais, d'accord.
Il y en a, mais il faut que je réfléchisse à ça avec des montages.
On en reparlera. Bon, parmi les standards souvent repris par les formations de jazz, il y a aussi le fameux Take the A-Train de Billy Strayhorn pour Duke Ellington. On pourra aussi désormais monter dans le RER B, subtil. celle de vos compositions que vous avez choisies pour terminer cette émission. Qu'est-ce que ça nous raconte d'abord? Pourquoi pas la ligne A, C ou D déjà? Parce que c'est quand même important.
À un moment, j'ai habité à Blanc-Mesnil, dans le 93.
Et voilà.
Et du coup, je prenais très souvent, voire tous les jours, et il y avait toujours des problèmes. Et un jour, je suis rentré un peu énervé, et je crois que c'est comme ça que ça a commencé.
Donc, vous le jouerez sans doute ce 7 décembre au Sunside.
Ouais, je le joue. Et je fais toujours la petite blague qui plaît toujours aux habitués.
Bien sûr, vous avez raison. Quelques mots sur le concert et vos musiciens?
C'est le petit concert d'avant Noël. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu au Sunside. On a des nouvelles compos. On a super hâte de jouer. D'accord. On a pas mal bossé. C'est ça que j'adore avec ce trio, c'est qu'on continue toujours d'avancer, de progresser.
Il n'est pas si ancien, hein, parce que, vous vous découvrez facilement tous les jours. Si je peux, enfin,
c'est le but aussi. Il y en a qui changent de projet tous les deux ans. Et moi, j'aime bien l'idée d'essayer de vraiment construire ensemble et de progresser et qu'il y ait vraiment un son de groupe, etc. Quoi.
On rappelle que, justement, dans le trio, donc en dehors de vous qui jouez du piano, la batterie de temps en temps, Bertrand Berruard est à la contrebasse.
Oui.
C'est bien ça. Et donc, Kevin Lucchetti, on a déjà évoqué, à la batterie.
Oui.
Comment vous vous êtes rencontrés?
Alors, Kevin, on était au CNSM ensemble, conservatoire de Paris. Et voilà, et je savais que c'était avec lui que je voulais faire ça. Et il m'a proposé de jouer avec Bertrand, que je connaissais pas du tout. Et ça l'a fait, quoi.
Les premières fois, c'est quoi? C'était en jam, en live, vous vous êtes retrouvés dans un studio, plutôt?
En fait, il y avait une résidence payée, enfin, le truc un peu parfait, qui m'était proposé. Donc, en fait, on a fait une répète, et après, c'était parti pour la résidence, d'accord, avec le trio.
Et
c'était
vous
lancé, quoi.
Ouais. Et vous aviez déjà vos compositions en...
Tout était pratiquement fait. Et vu qu'il y avait cette échéance-là de dispositif, j'ai été obligé de le finir et d'y aller à fond, quoi.
D'accord.
Et ça a lancé le trio.
Parfait. Ben, on est bien heureux. Merci beaucoup, Dexter Goldberg, d'avoir accepté notre invitation.
Jazz
Interview sur Art District aujourd'hui. Nous allons nous quitter en prenant donc votre RER B et on va essayer de s'arrêter à la station rue des Lombards, Sunside. J'espère qu'on va y arriver à temps. Merci, Dexter.
Merci
beaucoup. RER B, donc, pour terminer cette émission. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.